Welcome to Cogitations, a show where each week your host, anthropologist and UC Davis faculty Tarek El-Haik, encounters and talks with fellow thinkers, composers, philosophers, visual artists, filmmakers, and media scholars who cogitate with images, concepts, and forms. These cogitations are more than reflections. They are an expression of a way of life, an antidote to our dimmed access to the infinite, and an invitation to a joyful experience of our finitude. The show takes its name from a concept that has been key in both the philosophical work of the 12th century polymath Averroes and the interplanetary music of composer Sun Ra. Cogitations sound like the enchanting voices, songs, and music of birds of flames that have entered into our dark world. So good morning, dear listeners. Welcome to another session of Radio Cogitations. Today we will be talking with Dr. Mohamed Mallouli on the Western sector of the Alboran Sea. And I very much look forward to our conversation. Our next session will be called Nature, the Nature of a Scientist and a Scientific Reverie and Imagination with Melissa Salm and Annie O'Connor. And both will be my guests in a couple of weeks. So I look very much forward to initiating a series of conversations with colleagues who are working at the intersection between science studies, marine science in particular, and to try to understand contemporary ecological thinking in particular. So we will be having several guests who are going to join us to help us think a little bit about ecological matters and questions of the environment. So today it is my great pleasure to welcome Dr. Mallouli Idrissi Mohamed. Dr. Mallouli has a PhD in environmental economics and science, and he's an expert on economics of maritime and fishery resources, especially in the Mediterranean. Currently, he's the head of the National Institute of Fishery Research, the INRH, Institut National de Ressources Halieutiques, located in Tangier, Morocco, and he's a managing officer of the Marine Scientific Program in the Moroccan Mediterranean. He has managed several scientific projects and programs, mainly on themes related to small-scale fisheries, marine protected areas, the blue economy, and other topics. Between 2014 and 2018, he was a head of the Marine Resources Department at the INRH, and during this period, he actively contributed to the implementation of several Moroccan fisheries and management plans, which aimed to preserve the main Moroccan fishery resources. At the regional level, he is a scientific delegate from Morocco in the Scientific Advisory Committee at the GFCM. Mallouli has also published and contributed to these conversations in various articles. And he is also the co-editor with José Carlos Baez, Juan Tomás Vázquez, and Juan Antonio Caminas of the upcoming and exciting book, Alboran Sea, Ecosystems and Marine Resources, published by Springer. Our conversation today will be held in French. And so it is now my great pleasure to welcome Dr. Mallouli. Welcome to the show.
Bonjour, Dr. Tarek, et je vous remercie amplement pour votre invitation à participer donc avec vous donc dans ce débat que j'espère sera fructueux.
J'ai évidemment plusieurs questions à vous poser et peut-être que comme point de départ, on pourrait parler un petit peu de votre fonction et de votre travail à l'INRH. I think it would be really interesting for us to talk to you a little bit about your role as director of the Institute of Halieutic Resources in Tangiers. It would be very interesting for us if you could tell us a little bit about the way the various maritime zones are compartmentalized or divided within in Morocco in particular? Are there differences between the Atlantic and the Mediterranean?
En effet, donc la division maritime, elle est tout à fait différente de la subdivision administrative terrestre, parce que le milieu marin, donc, il est géré par des paramètres qui sont tout à fait différents, des paramètres océanographiques et des paramètres environnementaux. Donc, au Maroc, on peut distinguer entre trois grands compartiments, si on veut. Il y a la Méditerranée, qui fait partie de la mer d'Alboran, qu'on va discuter tout à l'heure. Il y a le Grand Atlantique, donc la Méditerranée avec environ 500 kilomètres de long. Il y a le Grand Atlantique qui peut aussi être subdivisé en plusieurs parties, donc en fonction des stocks que nous sommes en train de gérer, parce qu'au Maroc, il existe plusieurs types de ressources marines, plusieurs types de ressources halieutiques, et par conséquent, la subdivision des stocks, il dépend aussi de la nature de ces ressources. Mais en gros, on peut parler de l'Atlantique, d'un Atlantique de 3000 km de long, avec trois grands compartiments, si on veut dire l'Atlantique Nord, qui commence à partir du sud d'El Jadida jusqu'au Tanger. Après, il y a l'Atlantique centre qui va un petit peu du sud de l'Aïoun jusqu'à donc Agadir. Et après, donc, il y a l'Atlantique sud qui va donc du sud de l'Aïoun jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Et chaque compartiment, il a donc des caractéristiques particulières, océanographiques, environnementaux. Et là, je suis en train de vous parler d'une subdivision qui est relativement, je dirais, scientifique, donc qui est basée sur des paramètres scientifiques et n'est pas du tout administratif, parce que sur le plan administratif, on a couplé un petit peu la subdivision des régions du Maroc, les 12 régions du Maroc, et on a donc pour chaque région, quand il y a une partie maritime, donc il est considéré dans cette région. Par exemple, si on prend le cas de la région Tanger-Tétouan-Houssima, donc la partie maritime de Tanger-Tétouan-Houssima, il fait partie donc de la région donc administrative terrestre.
Donc, il y aurait une distinction entre la zone maritime du détroit de Gibraltar et la zone maritime de la mer d'Alboran. Donc, ce sont deux divisions maritimes distinctes.
Oui, par rapport aux paramètres océanographiques, effectivement, donc il y a donc j'ai oublié de mentionner que là il y a environ 60 km de long du détroit de Gibraltar qui se trouve entre la mer entre la Méditerranée dans sa globalité, le bassin méditerranéen, et entre l'Atlantique qui a des caractéristiques très particulières en termes de courant, en termes de température, en termes de profondeur. Donc, on se trouve dans une zone avec des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres, 1200 mètres, très riche en ressources marines de très haute valeur, je dirais commerciale, comme les dorades, comme les pajots, etc. Très riche aussi par des ressources qui font le passage entre l'Atlantique et la Méditerranée, comme le thon rouge ou les thons et l'espadon. Et donc, c'est effectivement, il s'agit d'une subdivision maritime bien distincte. Et là, je reste toujours dans le cadre scientifique, parce que si on prend le cadre administratif international, ces subdivisions sont un petit peu différentes.
Alors, toujours dans le même cadre de ces subdivisions, est-ce que la question de la salinité de l'eau dans le détroit de Gibraltar constitue un facteur pour séparer l'Atlantique, la côte atlantique de la côte méditerranéenne. Donc ça c'est peut-être un facteur que j'aimerais qu'on discute, même si rapidement. On sait que, que le taux de salinité entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranéenne connaît des variantes.
Oui.
Donc, est-ce que c'est un facteur qui est aussi pris en considération parmi d'autres facteurs, évidemment? Et l'autre question qui est un peu plus politique, dans le sens géopolitique, comme il n'y a que 14 kilomètres entre le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, donc au niveau du détroit de Gibraltar, comment est-ce qu'on ajuste le droit maritime international avec justement cette distance courte qui sépare l'Espagne du Maroc?
Pour votre première question, en fait, la salinité, comme vous l'avez dit, c'est juste un paramètre parmi d'autres. Donc, nous, on fait la distinction à travers plusieurs paramètres, notamment en particulier la température. La température de surface qui peut varier donc, entre les différentes donc, zones maritimes. La présence de chlorophylle aussi, donc la présence d'aliments qui est un facteur très déterminant dans la richesse d'une zone et la salinité, donc, et aussi les courants, les vents, etc. Donc, c'est tout un tas de paramètres et de critères océanographiques qui permettent de parler d'une subdivision de point de vue, je dirais, scientifique. Et nous, à travers donc des groupes de travail scientifiques, ils essaient de mettre tous ces paramètres soit dans des modèles pour sortir donc des orientations et des distinctions entre les zones. Donc un seul paramètre ne peut pas être un indicateur seulement par rapport à la distinction. Pour la deuxième question, à vrai dire, donc, en tant que scientifique, je n'ai pas tous les éléments, mais je peux dire que déjà 14 kilomètres, c'est le point le plus proche.
C'est ça.
Mais si on va vers l'ouest du détroit de Gibraltar, la distance elle est beaucoup plus importante entre… Par exemple, entre Ceuta, le cap de Ceuta et Algésira, c'est beaucoup plus que 14 kilomètres. Donc, 14 kilomètres, c'est vraiment la zone la plus proche. Donc, généralement, quand il y a donc des distances qui sont très courtes, c'est des accords bilatéraux parce que ce qui gère le maritime à l'échelle mondiale, c'est UNCLOS. Ça s'appelle UNCLOS. C'est comme pas une charte, mais c'est la loi internationale des droits maritimes
United Nations Law of the Sea.
Exactement. Et quand il s'agit donc au-delà de un clause, donc il existe plusieurs accords bilatéraux entre les pays qui sont riverains, entre les pays qui sont voisins sur la limitation de la ligne maritime. Et la partie qui fait partie, donc, bien sûr, il y a les eaux, en sachant qu'il y a les eaux territoriales qui sont de 12 miles. Donc, chacun, il a ses 12 miles déjà. Dans la partie où il y a moins que 12 miles de part et d'autre, donc, il y a donc, on se met d'accord sur mettre une ligne au milieu, ou il y a le détail de cet accord, je ne l'ai pas, mais je peux dire que c'est des accords donc bilatéraux donc qui règnent entre les deux pays
et qui déterminent évidemment le mouvement des pêcheurs aussi et des navires.
Qui déterminent le mouvement des pêcheurs, qui déterminent le mouvement du commerce des navires de commerce, qui déterminent la circulation au niveau de ce bassin. Et à vrai dire, depuis donc des décennies que je travaille sur cette zone, il n'y a jamais eu vraiment de problème, que ce soit au niveau de l'activité de pêche ou de l'activité de commerce ou l'activité touristique. Donc, ça marche très bien entre les deux pays au niveau de cette zone.
Donc, pour passer à une autre série de questions, quelles sont donc les responsabilités de l'INRH Et vous, en particulier en tant que directeur du centre régional de Tanger, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de votre rôle?
Donc, oui, effectivement, donc l'INRAJ déjà, donc c'est un établissement public à caractère scientifique, donc il est doté d'une autonomie aussi bien morale que financière. Ça veut dire que nous avons notre budget que nous gérons nous-mêmes, après validation de notre conseil d'administration qui est présidé par Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Donc, nous avons un objectif éminent, très, très important. C'est l'évaluation des principaux stocks des ressources halieutiques dans une seule perspective qui est la préservation de ces ressources. Ça, c'est notre objectif extrême, je dirais. Autrement dit, je peux dire que toutes les mesures de gestion de ces ressources qui sont établies par le département de la pêche maritime, qui est l'autorité de gestion, ils devront être appuyés ou ils sont appuyés, justifiés par un avis scientifique. Et c'est l'INRAJ qui joue ce rôle d'apporter cet avis scientifique à travers donc l'évaluation du stock. Bien sûr, nous avons d'autres attributions, nous avons d'autres tâches, d'autres objectifs. Il y a ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est l'analyse des paramètres océanographiques, donc qui nous permettent de comprendre la dynamique océanographique, la dynamique de courant, la variabilité de la température, de la salinité, de la chlorophylle, etc. C'est très important de comprendre ce qui se passe dans le milieu marin si on veut le gérer. Donc, bien sûr, vous pouvez bien imaginer donc cette relation très étroite entre les paramètres océanographiques, ce que j'ai cité, et l'état des stocks halieutiques. L'état des stocks halieutiques n'est pas impacté uniquement par la pêche, mais il est impacté aussi par son écosystème, par le milieu où ils vivent. Donc, le poisson, il est impacté par le pêcheur, mais il est impacté aussi par l'eau, par la pollution, etc. Je donne un exemple. Si la température de surface augmente d'un demi-degré, ça peut être catastrophique pour certains ou pour plusieurs organismes marins. On s'occupe également, ou l'INRA s'occupe également, de la surveillance du milieu marin, c'est-à-dire l'état sanitaire de certaines zones qui connaissent l'exploitation surtout des bivalves ou des coquillages, parce que ce sont des organismes qui filtrent. Donc tout ce qui est bio, ils peuvent filtrer tout ce qui est bio. Toxines, et par conséquent, tout type de pollution peut être très nuisible sur ces organismes et sur la santé humaine carrément. L'INRA s'occupe aussi de plusieurs projets et plusieurs programmes de recherche sur l'aquaculture. Il faut savoir que maintenant, le secteur de la pêche, surtout en Méditerranée, la zone où je travaille, se trouvent en très grande difficulté. Donc, les stocks sont surexploités. Et donc, il y a de moins en moins d'emplois pour les pêcheurs. Et par conséquent, il faut chercher des alternatives. Et parmi les alternatives, donc, il y a l'aquaculture à petite échelle, à grande échelle. L'essentiel, c'est que l'INRAJ fait des recherches sur les espèces, l'introduction d'espèces en aquaculture. Il fait des recherches sur l'alimentation, etc. Des recherches aussi socio-techniques et technico-économiques. L'INRAJ, il est présente au Maroc à travers plusieurs centres de recherche, notamment donc, il y a le centre de Tanger, mais il y a d'autres centres. Il y a 6 centres de recherche qui représentent l'ensemble du littoral marocain, de Dakhla jusqu'à Nador, en passant par Laayoune, Agadir, Casablanca. Pourquoi on se trouve dans ces régions et dans l'ensemble du littoral? Parce qu'il faut qu'on soit très proche des problématiques des pêcheurs, des problématiques que connaît le milieu marin, que connaît l'écosystème marin. Il faut savoir que un scientifique dans le domaine des sciences marines doit observer énormément. Il faut observer, observer, observer parce qu'il s'agit d'un milieu qui est très dynamique, il s'agit d'un milieu qui connaît beaucoup de changements, qui est impacté par le changement climatique, impacté par le développement économique. La rocade, par exemple, méditerranéenne, grâce à cette rocade, je peux dire que ça a créé un changement radical de la Méditerranée d'il y a 20 ans, par exemple. Ça a impacté le littoral à travers la pollution qui peut industrielle, la pollution qui provient du tourisme, etc. Et donc, nous sommes menés à être très proches de l'écosystème marin, des communautés des pêcheurs, de tout ce qui se passe autour du littoral marin pour comprendre et essayer d'apporter donc des éléments de réponse en cas de problème, d'apporter des orientations vers une bonne gestion, d'apporter donc les éléments pour une bonne préservation de cet écosystème qui fait vivre quand même environ 700 000 personnes, ce qui n'est pas facile, sans compter leurs familles. Moi, donc, je gère donc le centre de Tanger qui s'occupe donc de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée, une partie de l'Atlantique Nord, une partie de la Méditerranée. Je coordonne.
L'Atlantique Nord qui commence avec
Ce qui
l'arrache.
commence de Mehdia, un peu de Mehdia jusqu'à Tanger. Donc, on travaille avec le centre de Casa ensemble sur cette partie et avec le centre de Nator sur la partie méditerranée. Et donc, au niveau de notre centre, c'est comme un petit institut. Donc, c'est les centres de recherche de proximité ou régionaux. Donc, il y a toutes les disciplines sont presque présentes au niveau des centres. Donc, on travaille sur la biologie et l'écologie des principales ressources. On travaille aussi sur l'océanographie, donc les paramètres océanographiques. Nous avons une unité donc, qui travaille sur les analyses des données satellitaires. Donc, nous avons une cellule qui est donc assez importante, qui a des programmes de recherche très avancés. Donc, nous sommes quand même parmi, je dirais, donc les unités de recherche les plus en avance par rapport donc à l'Afrique et par rapport à plusieurs autres pays. Donc, toutes nos activités, nous les réalisons dans un cadre régional et international avec nos collègues de l'Union européenne, des États-Unis, nous travaillons aussi avec la NOAA, nous travaillons avec l'Afrique, donc nous avons donc une vision de collaboration qui est aussi internationale. Et un scientifique dans ce domaine ne peut pas du tout travailler tout seul, fermé donc dans son laboratoire.
Donc, ce que je trouve de très intéressant dans ce que vous dites, je retiens la notion d'observation, je retiens évidemment beaucoup d'autres choses, mais je retiens en particulier la notion d'observation et la notion de collaboration. Dans le contexte d'une approche scientifique qui prend en compte une unité d'analyse bien particulière. Et cette unité d'analyse me semble que c'est un agencement de plusieurs facteurs: salinité, température à la surface, des accords internationaux. On reviendra sur la question de la COBAMS un peu plus tard quand nous parlerons du cas du dauphin, cette polémique entre dauphins et pêcheurs sur la côte méditerranéenne en particulier. Il y a donc l'unité d'analyse ici demande plusieurs types de formations. Donc, ces différentes cellules qui composent et qui constituent l'INRH sont en observation continue de cette unité d'analyse, d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que la division du travail se fait entre ces différentes cellules? Et en tant qu'anthropologue, évidemment, dont le travail commence par la notion d'observation, d'observation participante, vous, en tant qu'économiste et économiste de l'environnement et économiste de questions de ressources maritimes, comment réussissez-vous à établir un dialogue dans des disciplines scientifiques qui ne sont pas nécessairement la vôtre? Donc, comment est-ce qu'un économiste est en dialogue avec un océanographe? Quel type de connaissances devez-vous développer justement pour être en dialogue avec ces experts?
En fait, l'économiste que je suis date d'il y a très très longtemps, hein. Je suis à l'INRASH, ça fait 22 ans. Et j'ai passé par plusieurs étapes le long de mon parcours professionnel, et qui m'ont permis donc de travailler avec différentes équipes de différentes disciplines, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale, qu'à l'échelle internationale. Et donc, ce titre d'économiste des pêches que je suis très, très honoré de l'avoir, que ce soit en tant qu'ingénieur ou après en tant que master, après j'ai eu mon master international sur l'économie et la gestion des pêches, après j'ai eu mon doctorat donc, en économie de l'environnement. Mais je peux confirmer que, à vrai dire, mon passage, j'ai un passage particulier entre 2014 et 2018, où j'étais donc le responsable du département des ressources halieutiques, qui est nommé actuellement département des pêches à l'INRASH, qui m'a permis de gérer quand même environ 6 ou 7 disciplines en même temps qui devront être soit complémentaires, soit chacun travaille dans son laboratoire pour donner un résultat qui va être synthétisé à la fin par le département et par moi-même. Et donc, ces 4 années et ces années dans le cadre aussi régional et international m'ont permis de comprendre un petit peu la conception de où je dois aller et qu'est-ce que je veux pour répondre à une problématique des ressources marines. Et donc, cette conception, elle est très importante pour bien gérer les équipes. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il s'agit de disciplines parfois très, très diverses. On a le programmeur de très haut niveau en informatique qui doit travailler avec le biologiste de très haut niveau pour sortir un modèle sur l'évaluation des stocks. Ce sont deux disciplines que on peut imaginer très très difficiles à mettre en œuvre, mais si on a cette conception de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Et faire passer ce message à l'ensemble de ton équipe, sûrement la situation sera plus ou moins facile à faire passer. Je donne un exemple sur lequel on travaille actuellement, c'est que On a vécu donc des difficultés dans la région de l'Arrache pour la production marine, la production halieutique ces dernières années. Et il y a une grande question qui se pose sur le pourquoi. Alors, d'une manière classique, je dirais, la réponse va vers l'exploitation, ça veut dire va vers la pêche, vers les pêcheurs. C'était la question classique, la réponse classique qu'on a connue et qu'on connaît depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Mais vu que, par exemple, nous avons différentes disciplines qui ont évolué au fil des années, notamment l'océanographie et les paramètres océanographiques et ce développement de cette unité, par exemple, d'avoir des paramètres par satellite qu'on n'avait pas avant. Nous avons dit que ça serait malheureux de donner une seule explication à ces difficultés que connaît la région de l'Arrache. Donc, nous allons essayer d'intégrer les paramètres océanographiques avec les paramètres d'exploitation, d'intégrer aussi les paramètres de pollution avec ces deux paramètres et de voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc, nous avons créé une équipe avec les trois disciplines qui, généralement, chacun travaille dans son laboratoire. Et ça a marché à travers beaucoup de communication, beaucoup de, je dirais, de sensibilisation sur la compréhension de ce qui se passe, sur le fait que si on a une chute de production, ça peut venir aussi de la température, des courants, du changement climatique. Ça peut venir aussi des pesticides qui sont versés dans la région de l'Arrache qui peuvent impacter la frange littorale, comme ça vient de l'exploitation des producteurs. Et pour un biologiste marin ou un halieute, au début, c'était pas tout à fait évident d'aller vers cette explication, vers cette conception. Mais finalement, le dialogue, j'avoue que le niveau quand même de nos scientifiques, il a amplement donc évolué au cours des 20 dernières années, grâce donc aussi donc à l'intérêt que commence à prendre l'INRASH. Donc, nous avons une direction qui encourage aussi, donc, qui est jeune, qui encourage la recherche, qui encourage le développement de nouvelles idées, le développement de nouvelles réflexions. Et tout cela, c'est un équilibre qui n'est pas facile à gérer. Attention, parce que les scientifiques sont généralement durs à gérer. C'est pas des gens faciles. Beaucoup plus les économistes, en sachant que les économistes sont un petit peu figés dans leur conception, dans leur calcul des choses. Et quand ils sont ils suivent une école particulière, c'est difficile de les faire sortir de leur coque et de leur dire qu'il existe donc d'autres approches, d'autres méthodologies. Mais c'est, je dirais, avec le temps, ça nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite beaucoup de travail. Ça joue aussi sur le fait, cette expérience, je dirais, internationale et régionale, permet aussi de faciliter donc ce contact avec les scientifiques et cet échange qui devrait être très ouvert et dynamique d'une manière continue et tout le temps.
On va parler un petit peu des aires marines protégées et de cette controverse entre dauphins, pêcheurs et activistes environnementaux, écologistes. Mais avant d'arriver à ce cas particulier, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu au rapport qui existe entre certains partenaires internationaux, comme Millennium, par exemple. Dans le développement d'aires marines protégées à partir des années 2010, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait plusieurs projet pilote de, d'aires marines protégées. Il y en avait trois initialement. Il y en avait une, Alboran, donc à côté de Mertil, Tétouan, Jbha. Il y en avait une autre, si je me souviens bien, à côté de Souera, donc dans la côte atlantique. Et la troisième était au niveau de Dakhla, si je me souviens bien.
Non, le troisième se trouve vers Agadir. Massa.
Massa. Massa. Donc, évidemment, je suppose qu'en est-il de ces projets pilotes? Ces aires marines protégées ont-elles vu le jour? Y en a-t-il beaucoup plus aujourd'hui? Commençons par les aires marines protégées.
Alors, les aires marines protégées, donc, à vrai dire, c'est bon, le thème sur lequel j'ai travaillé pour préparer mon doctorat, c'était sur les aires marines protégées et leur impact, je dirais, socio-économique sur les communautés des pêcheurs. Mais tout d'abord, j'aimerais bien définir qu'est-ce que c'est qu'une aire marine protégée selon, comme ça a été défini par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, qui est l'organe, je dirais, ou l'organisme international qui s'occupe d'une manière directe donc des aires marines protégées et de la Banque mondiale des aires marines protégées à l'échelle internationale. Donc, une aire protégée, en fait, une aire à l'UICN, c'est une aire protégée. Après, on a ajouté l'aire marine protégée parce que les réserves naturelles peuvent être à caractère terrestre, comme ils peuvent être à caractère maritime. C'est un espace géographique qui est défini donc clairement avec des limites à l'est, des limites à l'ouest, des limites à l'intérieur, qui est reconnu, qui est consacré, géré par des moyens qui devront être efficaces, mais aussi par des textes juridiques. C'est pas uniquement écrit dans un papier. Il existe donc un texte juridique
à l'échelle nationale. À l'échelle nationale.
Oui, je parle à l'échelle nationale qui identifiait les trois, par exemple, les trois ou les quatre aires marines protégées qui existent maintenant au Maroc, notamment Alboran, Mogador, Sousmessa et l'Houssima, le parc national de l'Houssima. Il y a un terme qui est très important dans la définition, l'identification des aires marines protégées, c'est la conservation à long terme de la nature ou de l'écosystème marin ou des poissons ou de ce qu'on veut. Et là, c'était le début de la création des aires marines protégées. Donc, les aires marines protégées, au début, c'était des aires pour préserver la nature. Et conserver la nature.
Donc la nature, quelle est la définition de la nature qui est donnée?
Quand on dit la nature, ça peut être des animaux, ça peut être une espèce algale, ça peut être une montagne marine, ça peut être un palais donc qui était construit dans une réserve. Ça, il a une connotation qui est donc liée à l'environnement, mais il y a aussi des valeurs culturelles qu'on peut trouver dans cette aire marine protégée. Dans cette aire protégée qui peut être aussi marine. Par exemple, Parc national de Houssima, c'est un parc qui est considéré comme une aire protégée avec une partie terrestre et une partie marine. Et donc, ce qui est protégé, c'est la partie terrestre et la partie marine. Dans la partie terrestre, on essaie de protéger un certain nombre d'animaux, donc des eaux rares qui ne se trouvent qu'au niveau de la région de Houssima. On essaie de protéger un certain type d'arbres, de variétés végétales, mais on essaie aussi de protéger, je dirais, quelque chose comme 50 km de long de la partie maritime. Mais au fil des années, l'UECN a compris que la conservation de la nature ne peut pas être un succès si on ne pense pas à l'homme, si on ne pense pas aux bénéfices que peut tirer l'homme aussi de cette nature. Parce que finalement, la nature ou l'air à protéger Parfois, on se trouve dans des déserts où il y a rien, il n'y a pas d'activité. C'est les catégories 1. Il y a six catégories dans la définition des aires marines protégées de l'UICN. Il y a six catégories. Ils ont commencé par les catégories 1 où il faut fermer carrément l'espace pour protéger donc des espèces menacées, etc. Donc pour des raisons très particulières. Après, on est allé jusqu'à la catégorie 6. On a finalement compris que l'homme aussi, c'est un être qu'il faut aussi trouver l'équilibre avec lui pour préserver cette nature. Et donc, par exemple, les AMP, Mogador, Alboron, Sousmer, ça, ce sont des AMP qui peuvent être considérés comme des AMP de catégorie 6. Ça veut dire que ce sont des AMP où il y a l'activité, où il y a des revenus, où il y a des pêcheurs qui vivent, où il y a des gens qui vivent. Et donc, il y a un équilibre entre l'homme et la nature. Bien sûr, tout cela doit être géré à travers des mesures de gestion, je dirais, strictes en termes d'efforts de pêche, en termes d'exploitation, en termes. Une aire protégée ne doit pas non plus être comme un espace non protégé. Mais de catégorie 6, je dirais que l'homme doit tirer ses bénéfices de cette nature, de cette aire, tout en préservant bien sûr la nature pour les générations futures. Donc, cet équilibre, il n'est pas facile, hein. Il est difficile à trouver. Nous, en tant que scientifiques, on se trouve parfois dans des situations délicates parce que nous, en tant que scientifiques, nous avons le souci de préserver la nature, de préserver l'écosystème, de préserver les stocks. Mais nous avons aussi, là, c'est la discipline de l'économie qui parle, nous avons aussi le souci de garder des emplois, de préserver des revenus, de préserver des conditions de travail pour les gens. Et donc, cet équilibre délicat pour nous nous pose dans des situations parfois difficiles. Mais il faut dire que l'homme, il a commencé à comprendre qu'il faut qu'il préserve la nature. Et l'utilisateur de cette nature de 2021 n'est pas du tout le même que celui que j'ai connu il y a 20 ans, il y a 22 ans, où il y avait donc, je dirais, un manquement de conscience par rapport à comment peut. Comment peut aller cette exploitation excessive des ressources vers des situations irréversibles, parfois irréversibles. Dans certains endroits au monde, nous avons perdu des espèces à cause de cela. Mais je peux dire que en ce moment, de toutes les manières, moi je peux parler du cas marocain, nous avons quand même des usagers qui sont de plus en plus conscients du rôle de la nature, conscients du fait que les ressources ne sont pas là pour toujours. Ils peuvent être détruites d'une manière irréversible. Et donc, nous sommes nous travaillons dans un climat qui est plus confortable. Par rapport à ces aires, oui, il existe à travers même des textes juridiques. Maintenant, il y a d'autres qui sont en cours de préparation parce que ça nécessite la mise en œuvre d'une aire marine protégée. C'est un processus qui commence par le choix des sites. Généralement, on travaille au niveau des sites, des cibles, des sites d'intérêt biologique et écologique. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt biologique et écologique. Après, donc, le choix de des sites à travers donc, un scoring. On choisit par exemple un site particulier. Après, il y a la sensibilisation de la communauté. L'acceptabilité de la communauté, elle est très importante parce que la mise en œuvre de mesures à travers des textes juridiques c'est pas suffisant s'il n'y a pas l'implication des communautés des pêcheurs et leur acceptabilité. Après, il y a les textes juridiques, la mise en œuvre et l'un des points les plus importants pour le succès et la réussite de ces aires, c'est le contrôle. C'est très important d'avoir donc un processus de contrôle, je pense qu'il existe au niveau de ces quatre aires. Et le plus important aussi, c'est des alternatives par rapport à la communauté qui vit autour de ces aires, notamment à travers donc des services écosystémiques. Et donc là, par exemple, on essaie de changer la donne en transformant, je dirais, donc les contraintes. Qui se trouvent à travers donc ces mesures limitatives à des opportunités. Par exemple, pour le dauphin, au lieu d'avoir, je vais après parler du grand dauphin, mais je donne un exemple. Au lieu que ça soit mon ennemi par rapport à une ressource, il peut être mon ami à travers, par exemple, le whale watching. L'attractivité touristique, elle est très importante dans certains endroits du monde à travers donc l'observation des dauphins et des baleines qui attirent beaucoup de touristes, qui attirent beaucoup d'argent et qui restent une activité très propre, très verte sans nuire donc à l'écosystème ni à la nature.
Votre description des projets d'aires maritimes me semble fascinant. Il me reste une petite question par rapport au concept de nature. D'accord? Le concept de nature, dans le mouvement écologiste et environnemental des années 70, il y avait trois modèles, et je vais simplifier. D'accord? Il y a l'homme et la nature, il y a l'homme contre la nature, et il y a l'homme dans la nature. D'accord? Évidemment, ça, c'est la conception que. La conception qui permet de penser à trois modèles d'intervention écologique. L'homme contre la nature, c'est ce que vous venez très bien de dire. Le dauphin n'est pas mon ennemi pour une ressource. Vous avez utilisé le mot ami, que je trouve très intéressant d'ailleurs, une sorte d'amitié entre espèces d'une certaine manière. Ça, on peut revenir sur cette discussion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les catégories de ces aires marines protégées, donc catégories 1 à 6, si j'ai bien compris. Donc, quand on parle de nature, ce n'est pas le wild dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire, ou le khla dans le
Le
sens
sauvage,
du terme, le
le
sauvage.
sauvage, le
Donc,
sauvage.
est-ce que la catégorie 1 serait plus proche du sauvage et la catégorie 6 serait plus inclusive de l'homme? Donc, il y a en fait
Oui.
deux catégories de nature qui sont en jeu ici. C'est-à-dire qu'il y a le sauvage d'un côté, une conception de la nature où l'homme est, il y a un dépouillement de toute activité culturelle, humaine, etc. Et de l'autre côté, la catégorie 6 serait une sorte de l'homme dans la nature. Donc voilà, je spécule, hein,
Oui. Ça peut prendre cette vision, mais Mais en fait, ça dépend du type de ce qu'on veut conserver. Par exemple, si on a un petit groupe de phoques moines qui vit dans un petit coin au sud du Maroc, au sud des États-Unis, par exemple. Une vingtaine de kilomètres ou une trentaine de kilomètres, on trouve une espèce qui est en voie de disparition, qui est très rare, qui est protégée, qui est dans toutes les listes rouges de tous les organismes. Là, si on met l'homme à côté, ça peut, c'est un peu difficile pour les phoques moines de vivre avec l'homme. Qui peut donc être concurrent aussi bien de leur aliment, mais qui peut les déranger, qui peut déranger leur habitat, etc. D'ailleurs, on a vécu dans plusieurs zones, y compris au Maroc, on a vu qu'il y a des habitats de phoques moines qui sont disparus à cause juste de la présence de l'homme. Et donc là, ça dépend de ce qu'on veut protéger. Et de cette nature et de la vulnérabilité de cette nature. Par exemple, quand il s'agit d'une aire marine protégée ou les espèces à protéger marines, à protéger l'écosystème marin qu'on veut protéger n'est pas si vulnérable que ça. Ça veut dire qu'il peut vivre cette relation, peut ne, l'un ne peut pas déranger l'autre sans grand problème. Là, on peut aller vers cette catégorie où on intègre l'homme sans grand problème. Mais je pense que la catégorisation des aires, c'est surtout par rapport, c'était fait surtout par rapport à la nature de ce qu'on veut protéger. De l'écosystème qu'on veut protéger, donc qui peut être, comme j'ai dit, un animal, comme il peut être un habitat, etc. Mais il y a quand même ce que vous dites, il est vrai, il y a cette évolution de l'homme conservateur qui était rigide pendant plusieurs années, pendant des décennies, qui existe toujours. Il y a beaucoup d'organismes qui sont très très conservateurs, qui veulent protéger à coûte que coûte les animaux sans tenir compte de cette protection sur l'homme. Et ça, c'est pas possible. L'homme ne va pas accepter, il va se révolter, il va commencer à travailler dans l'illicite, tout simplement. Donc, vaut mieux avoir des aires avec des mesures de protection acceptée. Moi, j'ai dit, il y a une phase qui est extrêmement importante dans la création et la mise en œuvre d'une aire marine protégée, c'est l'acceptabilité. Et essayer de sensibiliser sur cette protection de la nature et intégrer l'homme dans cette protection, qu'il l'approprie lui-même. Maintenant, il y a des pêcheurs qui demandent des aires marines protégées. Ça, c'est au Maroc. Mais oui, au Maroc, c'était impossible il y a quelques années. Maintenant, c'est eux-mêmes, parce qu'ils ont vu que, primo, si on protège une zone, ça va être plus riche dans l'avenir et ça va être plus bénéfique pour eux, même sur le plan matériel et financier. Deuxièmement, si on ne protège pas, il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus de revenus, il n'y aura rien, et c'est le déclin de l'ensemble. C'est le déclin de l'écosystème, de la ressource et de l'homme avec.
Et
Parce que
de la pêche artisanale aussi, d'une certaine manière.
de la pêche artisanale, quand je dis de l'homme, c'est je parle du pêcheur dans ce cas. Je parle du pêcheur parce que dans la majorité des cas, nos pêcheurs, ils n'ont pas trop d'alternatives en dehors de l'espace maritime, en dehors du littoral. Et il y a une grande difficulté pour nos pêcheurs de trouver d'autres emplois, de trouver d'autres revenus, etc.
En parlant de pêcheurs et de d'aires marines protégées et de pêcheurs qui revendiquent maintenant ces aires marines protégées, j'ai suivi quelques débats disponibles sur Internet où justement les débats peuvent être polémiques, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une sorte de mouvement dans la communauté de pêcheurs maintenant vers justement accepter et même désirer ces aires marines protégées. Cela étant dit, il me semble que une vision romantique de la nature, c'est-à-dire la nature qui est toujours perçue comme étant vulnérable, je pense que, si j'ai bien compris vos propos, la nature n'est pas souvent juste vulnérable. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la nature de ce grand dauphin. En anglais, c'est le common bottlenose dolphin. Et le nom scientifique qui a été donné pas par Linnaeus, mais par Montagu. Donc c'est le Tursiops truncatus, parce que les dents comment dire en français, sont à moitié coupées presque. Que connaissons-nous, qu'est-ce qu'on connaît du mode de comportement de ces dauphins? Et quel est le rapport au type de filet de pêche qui est utilisé par ces pêcheurs? Et comment est-ce que vous, en tant que chef d'un centre régional de ressources halieutiques, comment est-ce que vous gérez cette situation qui devient problématique? Chaque semaine, on voit ce cas qui est débattu sur les chaînes nationales et internationales. Donc, comment est-ce que vous approchez ce problème?
Alors déjà, j'aimerais bien dire que il s'agit d'un sujet qui est assez compliqué. Alors nous avons, je m'explique, nous avons un espace qui est la mer d'Alboran, qui est assez large. Nous avons une ressource marine, en particulier les petits pélagiques, en particulier la sardine, qui est une source d'alimentation pour le grand dauphin, mais qui est une source aussi d'alimentation et de revenus pour une communauté des pêcheurs qui vit de cette ressource. Alors, quelle est la conséquence? Nous sommes devant une situation de compétition très claire entre l'homme et le grand dauphin sur la même ressource. D'accord? Donc, il faut qu'on trouve une solution. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre, je dirais, socio-écologique pour que tous les intervenants, ça veut dire le grand dauphin et l'homme, chacun, il doit trouver son compte. Ça veut dire, autrement dit, on ne peut pas imaginer une solution qui favorise l'homme au détriment du grand dauphin. Pourquoi? Parce que il est protégé par les instances internationales.
À Cobham en particulier.
À part qu'il soit protégé, nous voulons le protéger. Donc ça, il faut le savoir, hein.
Bien sûr.
C'est pas parce que l'organisme international, nous, on fait partie de l'organisme international.
Absolument.
Le bureau d'Acobams, le Maroc, il fait partie, il est président. Donc, on veut le protéger parce qu'il est très important dans l'écosystème marin. Il se trouve à la tête de la chaîne alimentaire et de la pyramide de la chaîne alimentaire, et par conséquent, il joue un rôle très important dans l'écosystème marin. On ne peut pas imaginer une vie, un écosystème marin sans ce grand dauphin. Mais d'autre part, on ne peut pas non plus imaginer une solution qui favorise uniquement l'animal au détriment de l'homme. Donc, pourquoi? Parce que nous parlons ici de quelques milliers d'emplois directs, de quelques milliers d'emplois indirects, en sachant qu'il y a pas beaucoup, je dirais, d'alternatives. Ça veut dire si on arrête la pêche pour protéger le grand dauphin, il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que c'est des pertes de revenus, des pertes d'emplois. C'est pour cela que nous avons commencé dernièrement, déjà pour comprendre la situation. Donc, l'homme ne fait rien, n'attaque pas, n'impacte pas du tout le grand dauphin. C'est le contraire qui est vrai. C'est pas le dauphin commun, Delphinus, oui, parfois, parce qu'il y a beaucoup, donc dans la mer d'Alboran, moi j'ai fait des sorties avec les sardiniers, il y a des milliers, des milliers, des milliers de dauphins communs qui a une petite taille parfois, donc il est pêché, mais accidentellement, et s'il arrive à le rejeter, donc il le rejette. Donc déjà, ça d'une part. Donc c'est le grand dauphin qui attaque d'une manière systématique le filet des seineurs. Pourquoi? Parce qu'en plus de la compétition, c'est plus facile pour lui d'avoir toute la sardine à l'intérieur d'une seine déjà prête et il commence à attaquer. Il faut imaginer la situation. Au lieu d'aller chercher les bancs de sardines d'une manière, il court autour du banc pour attraper quelques sardines, il attend jusqu'à ce que le seineur donc encercle. Donc c'est une seine tournante. Donc il encercle le banc. Et au moment de ramasser donc le banc de la sardine, il commence à attaquer parce que c'est plus facile, parce qu'il est reconnu à l'échelle mondiale que le grand dauphin est l'un des animaux les plus intelligents. Il est très, très intelligent, donc il connaît très, très bien comment gérer ses attaques. Et donc là, quelle est la solution? Oui, vous l'avez dit, je gère ce problème, surtout qu'il existe dans ma région. Quelle est la solution? Premièrement, nous avons essayé des méthodes acoustiques, parce que, comme vous le savez, le grand dauphin, il ne voit pas. Il ne voit pas, donc il utilise le son. Et pour ses orientations. Et donc, nous avons essayé,
Echolocation.
exactement, donc nous avons essayé d'utiliser l'acoustique au tout début, parce que ce problème, c'est un problème ancien, ça date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui date d'il y a peut-être 30, 40 ans. Déjà, à l'INRAS, ça fait 22 ans qu'on travaille sur ça. Donc, nous avons essayé des outils acoustiques qui étaient utilisés par les Hollandais, par les Australiens, par les Américains. C'est pas, rien n'est marocain dans l'affaire. Donc, déjà, tout provient de l'extérieur. Malheureusement, c'est un animal qui s'adapte facilement avec les sons et à chaque fois qu'il utilise donc des fréquences, des ondes nouvelles, donc il s'adapte. Au début, donc il n'est pas là pendant 1, 2 mois, mais au fil des semaines et des mois, il revient parce qu'il s'adapte à ça. Et donc la deuxième solution qui s'avère, à mon sens, peut donner un résultat pas à 100% concluant, mais un résultat qui est meilleur, c'est l'utilisation de scènes qui résistent plus à ces attaques. Ça veut dire parce que les filets utilisés, les filets ordinaires qu'on utilise maintenant, sont des filets qui sont très légers, très fragiles. Et donc les attaques, quand il attaque la seine et le filet, donc il fait des déchirures de grande taille. Et donc il y a des pertes aussi bien de la production que des pertes sur l'engin. Donc pour le réparer, il faut de l'argent, il faut du temps pour le réparer. Donc il y a beaucoup de pertes socio-économiques et des pertes en production. Maintenant, on essaie des filets nouveaux prototypes avec des fils qui sont plus résistants. Jusqu'à maintenant, nous avons eu des résultats qui sont important, mais nous continuons notre expérience. En parallèle, nous avons un programme de recherche scientifique avec ACOBAMS et avec des experts internationaux sur l'analyse et l'étude du comportement du grand dauphin, sa dynamique. Nous allons essayer de travailler sur ce qu'on appelle la photo-identification, ça veut dire essayer d'identifier les individus au niveau de la, des deux principales régions où il y a les attaques, notamment le Madiq et le Husseima. Et si donc nous avons donc le filet résistant ou la scène renforcée, comprendre un petit peu son comportement, pourquoi il attaque, quand il attaque, la nuit, le jour, quelle zone exactement, pour quelle raison exactement, peut-être, je dirais, nous pouvons imaginer des solutions, je dirais à 100%. C'est pas possible, mais des solutions qui atténuent un petit peu donc cet impact négatif sur les pêcheurs. Le travail sur les grands dauphins et leur comportement, c'est un travail de longue envergure, de longue allure. Donc c'est pas un travail d'une année ou de 2 ans. Donc ça nécessite un peu de souffle, ça nécessite de la patience. Mais on est là, on essaiera donc. Un scientifique qui n'est pas patient, il doit changer de métier. Donc,
Je pense que, il serait intéressant peut-être dans une prochaine conversation de réfléchir au mode de pensée des pêcheurs aussi. Parce que le mode de pensée de pêcheurs, il ne faut pas le contraster avec le mode de pensée des scientifiques. Je pense qu'il y a une connaissance de la mer qui doit être prise en considération, il y a une connaissance des ressources maritimes, il y a toute une tradition de relations avec des espèces non humaines. Qui est dans le savoir-faire de ces pêcheurs. Et je pense que les pêcheurs aussi conceptualisent la mer d'une manière certes différente des scientifiques, mais pas tellement différente non plus. Donc voilà, évidemment, nous pouvons parler du cas du dauphin pendant des heures. En conclusion, j'aimerais parler un petit peu de ce livre qui va bientôt sortir en avril, si j'ai bien compris, Alboran Sea, Ecosystems and Marine Resources, qui va être publié par Springer Press. Si vous pouvez nous parler pendant quelques minutes de la nature de cette collaboration, du projet et qu'est-ce que vous souhaitez accomplir à travers ce projet.
Tout d'abord, donc, j'aimerais bien parler un petit peu de Alboran. Alboran, je suppose que vous avez fait des petites recherches sur c'est quoi Alboran. C'est un terme qui est arabe d'origine et comme beaucoup de termes qui proviennent de nos voisins espagnols qui commencent par A ou AL sont d'origine arabe, c'est Al-Bahran. Parce qu'il se trouve entre, je dirais, la l'Atlantique et la Méditerranée, c'est le début, c'est l'extrême occidental de la Méditerranée. Et par conséquent, cette position géographique, je dirais, de la mer d'Alboran, fait de cet espace une zone qui est alimentée par les courants et les eaux qui proviennent du détroit de Gibraltar et de l'Atlantique. Et il fait un brassage qui est extraordinaire, qui donne une biodiversité, je dirais, parmi les plus importantes biodiversités au monde. Malgré son petit espace, et ça alimente tout le bassin méditerranéen, puisque c'est un bassin qui est presque semi-fermé, parce que l'ouverture par rapport à l'Atlantique, ça se trouve au niveau du détroit de Gibraltar. Et donc, ça donne un écosystème, malgré le fait qu'il s'agit d'un espace qui est relativement petit, restreint, mais très, très riche en biodiversité. La deuxième chose qui est la plus importante, c'est que il connaît cette zone, il connaît une activité humaine très importante, aussi bien au nord, donc au niveau de la péninsule ibérique, qu'au sud. Donc ça devient, parce que la mer d'Alborance, c'est une partie de la Méditerranée espagnole, c'est toute la Méditerranée marocaine, une petite partie de la Méditerranée algérienne. Et donc ça devient, la zone devient de plus en plus très vulnérable. Il y a déjà la zone qui connaît le plus de navigation au monde, de circulation. Ça commence à dépasser donc le canal du Suez. Donc il y a donc une industrialisation et une urbanisation très importante du littoral, de part du nord, aussi bien au nord qu'au sud. Et l'écosystème et la biodiversité très importante. Et l'activité de pêche qui était avant artisanale, je dirais qu'il n'y avait que la pêche artisanale qui devient de plus en plus, donc je dirais, industrialisée, malgré que les tailles des navires sont petites. Et donc ça donne un résultat, c'est que nous sommes devant un espace qui est devenu très vulnérable. Et donc nous avons réfléchi, donc moi et des amis espagnols, à se pencher sur la production d'un livre qui s'intéresse à cet espace. Donc nous sommes un groupe de chercheurs qui ont. Bon, pour l'édition, je suis donc le seul Marocain avec trois collègues espagnols, Vasquez, Baez et Caminias, Juan Antonio Caminias. Donc tous les participants, c'est des scientifiques, des chercheurs de l'IO, donc l'Institut océanographique espagnol, de l'INRACH et des universités. Et donc nous avons essayé de mettre en exergue l'importance de cette mer d'Alboran à tous les niveaux. Ça veut dire de point de vue océanographique, de point de vue biologique. Nous avons mis en avant les habitats vulnérables, les habitats donc non vulnérables, les espèces marines, etc. Et nous avons touché donc la partie qui m'intéresse le plus. Sur laquelle donc j'ai travaillé, c'est surtout donc la pêche artisanale, l'implication de l'homme dans cette mer d'Alboran, et finalement on a produit quand même un document de 768, je pense, 768 pages avec beaucoup d'illustrations, beaucoup je dirais, d'images et de sensibilisation vis-à-vis donc l'importance de cette mer.
Melouli, je vous remercie infiniment pour ces informations précieuses. J'ai beaucoup appris et je suis certain que notre audience aussi va apprendre beaucoup de choses. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je sais qu'il fait tard.
Il est 8h30.
À Tanger. En tout cas, c'est un débat que nous venons de commencer et que nous continuerons à l'avenir.
Oui, avec grand plaisir. Moi aussi, j'étais ravi de participer donc à cette discussion, à ce débat. Et nous sommes là donc prêts à collaborer et prêts à partager donc ce que nous produisons, prêts à partager notre expérience, à partager ce que nous faisons au Maroc. Bien sûr, pour le bien de nos communautés tous.